France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Quel avenir pour le parti Les Républicains et surtout quelle ligne politique à l'avenir pour dessiner quel type de résistance à droite après les échecs successifs de Nicolas Sarkozy, François Fillon, François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez. Échecs qui sont tous différents mais qui tous disent beaucoup de la difficulté pour LR à trouver les bons équilibres politiques dans un contexte de disparition ou d'effacement progressif du clivage gauche-droite. Après cette série noire, donc, quelle place pour les héritiers du parti gaulliste? Quel espace entre les familles néolibérales et nationalistes, courants qui sont les courants finalistes de l'élection présidentielle de 2017. Aujourd'hui, on l'a dit dans les différents rendez-vous d'information ce matin, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures à la présidence de Les Républicains. Trois candidats se disputeront très probablement le vote des militants, Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, avec donc, au-delà de l'enjeu des municipales, l'espoir, la nécessité même de trouver un espace politique à droite entre La République En Marche et le Rassemblement National. Nous recevons un des éminents spécialistes de l'histoire des droites en France ce matin, Gilles Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire et professeur d'histoire contemporaine. Vous avez publié en 2017 une somme sur l'histoire des droites en France de 1815 à nos jours. Oui, c'est une somme. C'est chez Perrin. Deux ans après la victoire d'Emmanuel Macron, Gilles Richard est de sa ligne progressiste ou néolibérale selon votre classification. Force est de constater que les LR se cherchent encore. Ils ont connu l'humiliation encore aux élections européennes, ce qui amène à cette élection. Est-ce que selon vous, le problème dans les deux cas, aussi bien aux présidentielles de 2017 qu'aux européennes de 2019, c'est un problème de positionnement politique ?
Alors, certainement pas un problème de positionnement politique, c'est un problème plus large, si on veut le comprendre à long terme, c'est le problème de l'adéquation, je crois, entre les partis politiques et les familles politiques. Et les partis sont mortels, enfin, quoi qu'ils ne meurent jamais, il reste des petits résidus. Mais les familles politiques, elles demeurent sur la longue durée. Et nous sommes passés depuis quelques années dans un type de clivage fondamental et premier dans la vie politique qui oppose, selon moi, les néolibéraux et les nationalistes, que bien souvent on appelle les populistes, mais moi je préfère les appeler les nationalistes.
On dit extrême droite aussi.
On dit aussi extrême droite, ou droite radicale, etc. Donc le vocabulaire est pluriel et montre que l'analyse a besoin d'être approfondie encore, je pense. Et à partir de là, le parti Les Républicains se retrouve écartelé entre ces deux tendances. Ces deux tendances que Nicolas Sarkozy a voulu rassembler dans l'UMP, quand il a pris en main l'UMP en 2005, et qu'il a porté le parti à plus de 300 000 adhérents. Mais des adhérents qui aujourd'hui ont tendance à fuir d'un côté ou de l'autre, les néolibéraux, juppéistes, allant plutôt vers Emmanuel Macron, et la tendance nationaliste, identitaire, se reconnaissant davantage dans le Rassemblement National.
Est-ce que c'est pas ce qu'ont essayé aussi François Fillon, François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez?
C'est exactement...
Essayer de réunir aussi des éléments, en tout cas, de ce qui peut plaire à ces familles politiques.
C'est exactement ce que François Fillon a voulu faire aussi. Alors, sur un autre mode que Nicolas Sarkozy, car lui tenait, la partie ou la face identitaire de son programme reposait plutôt sur le catholicisme traditionnaliste, ce qui n'est pas du tout le cas de Nicolas Sarkozy. Et il a profité un temps de la manif pour tous, c'est comme ça qu'il a pu gagner la primaire assez massivement, mais c'est la même idée d'associer le néolibéralisme et une définition identitaire nationaliste plutôt fermée de la nation. Et c'est, à mon sens, intenable.
Et pourtant, il faut bien trouver un espace, il faut bien trouver un peu d'oxygène. C'est ça l'enjeu, finalement, Gilles Richard, pour aujourd'hui ce parti Les Républicains qui se retrouve coincé, manifestement, entre La République En Marche et le Rassemblement National.
Oui, c'est un problème considérable, mais un problème les dirigeants de Les Républicains vont avoir beaucoup de mal à résoudre. Comme avant, le PCF a eu du mal à résoudre la question de sa survie, comme avant, les radicaux ont eu du mal à résoudre la question de leur survie. Je pense que l'avenir de LR est de devenir un petit parti, comme le PCF l'est devenu, comme le PS l'est devenu, etc. Et la vie politique se réorganise autour de deux nouvelles forces politiques. Le Rassemblement National n'est pas une nouvelle force. Mmh. Hein, et de l'autre côté, un parti macroniste, La République En Marche, qui n'est pas encore structuré de façon solide et pérenne, mais qui mise beaucoup sur les élections municipales pour s'enraciner localement.
Qui, eux, les deux dont vous venez de parler, les deux partis Rassemblement National et La République En Marche, qui n'ont pas vocation, eux, à devenir des petits partis. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en adéquation avec les familles politiques. Vous disiez tout à l'heure, c'est un problème d'adéquation entre les partis et les familles. Eux, ils sont en plein dans le mille.
Tout à fait.
En ce moment.
Alors, en tout cas, pour ce qui est on peut revenir sur la question de La République En Marche. On a là, vous savez qu'on a souvent parlé depuis une vingtaine d'années de ce qu'on appelle la droitisation de la société, un concept qu'il faut manipuler, je pense, avec précaution, mais qui peut recouvrir, enfin, qui recouvre un processus bien précis, qui est l'hégémonie idéologique du néolibéralisme, hein, la conquête des esprits par les néolibéraux, qui s'est vu, qui a fonctionné et sur l'UMP et sur le Parti Socialiste. Hein. Et aujourd'hui, précisément, enfin, si Emmanuel Macron a pu être élu en 2017, c'est parce que il est arrivé au moment où c'est processus de moyenne durée, on va dire, hein, était mûr, hein, et où le Parti Socialiste donc s'est scindé, et où l'UMP LR s'est scindé. Voilà.
Vous faites remonter dans votre ouvrage L'histoire des droites en France l'hégémonie de ces néolibéralistes à 1974 à l'élection et c'est pas forcément d'ailleurs tout à fait lié à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, mais c'était le moment. C'est le moment où ça arrive, quoi. Hein, c'est ça. Hein,
j'ai exactement. Ça. C'est le moment où, quand Valéry Giscard d'Estaing entre à l'Élysée dans une situation extrêmement difficile, hein, puisque c'est l'élection la plus serrée de toutes les élections présidentielles, personne ne pouvait prévoir le résultat avant le second tour. Donc c'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'emporte de très peu. Et il se trouve qu'il y a coïncidence entre cette prise de pouvoir et l'entrée dans ce qu'on appelle la crise couramment, que moi j'appelle plutôt la troisième révolution industrielle, donc la mutation de l'économie française, pas seulement française, européenne et occidentale en général, avec l'arrivée de l'électronique comme secteur pilote, hein, et donc le chômage de masse, voilà, qui a déstructuré assez rapidement les gauches, et notamment le mouvement ouvrier qui s'est construit depuis la fin du 19e siècle sur la base du syndicalisme d'abord. Hein. Et c'est très clair, on le voit à partir de 77-78, les grands syndicats, CGT, CFDT et puis les autres, commencent à perdre des adhérents. Voilà. Et c'est sur cette base-là que les néolibéraux ont pu progresser face à un adversaire, lui, qui s'affaiblissait au fur et à mesure.
Vous êtes en train de nous décrire à ce moment-là, à ce tournant des années 70, un changement dans les grands clivages politiques français. On peut peut-être remonter encore un peu plus loin pour essayer de comprendre la situation actuelle, Gilles Richard, et puis tous les aspects que ça peut recouvrir. Il y a eu une question d'abord sur la question la définition du régime politique français. Ça, c'était selon vous, et c'est une des thèses que vous défendez. Ça a été très structurant dans la vie politique française, la question du régime, la République ou pas. Ensuite, ce que vous venez de décrire assez rapidement au niveau des années 70, cette question sociale. Et ensuite, on a un autre changement, mais on va y venir, qui est plus sur la question nationale maintenant. Hein.
Tout à fait. En réalité, c'est un véritable problème d'analyse de la vie politique et qui concerne notamment directement les journalistes amenés à en traiter tous les jours, hein, où on parle couramment, mais aussi les citoyens qui, dans la vie quotidienne, parlent comme ça, de moins en moins. Mais on dit la droite et la gauche. Mais ça n'existe pas, la droite ni la gauche. Il y a des familles politiques, moi j'en compte 14, hein, sur la longue durée, y compris les royalistes qui existent encore, mais même s'ils sont très peu nombreux, cette famille existe toujours.
Ils sont toujours des individus. Janvier,
voilà, et le 21 janvier, ils vont dans la messe dans les cathédrales pour en souvenir de l'exécution de Louis XVI. Et ces familles politiques donc évoluent au fil du temps, s'adaptent, naissent ou déclinent, et elles forment des grands blocs qu'on appelle droite et gauche. Mais ces blocs se forment autour d'une question principale qui clive la société. Et au XIXe siècle, donc, c'était la question du régime. Fallait-il une république ou un système politique de type personnel ? Et une fois que la république l'emporte, la question est de savoir si la république sera libérale ou sociale. Cette question aujourd'hui ne se pose plus puisque naturellement qu'elle se pose toujours. Il y a toujours des individus qui sont de gauche, qui sont dans la République sociale.
Ça se pose peu. Voilà. Et aujourd'hui?
Et aujourd'hui, donc, bah, la question nouvelle, c'est la question de l'identité nationale qui a émergé dans les années 80.
Avec les premiers succès du Front National.
Voilà, quand le Front National décolle soudainement, et précisément dans des élections européennes. C'est-à-dire quand la question se pose de savoir ce que va devenir la France. Est-ce qu'elle va se dissoudre dans une entité nouvelle et plus grande ? Pourquoi pas, mais il se trouve que cette entité nouvelle et plus vaste, qui s'appelle l'Europe, est d'un flou absolu et ne convainc pas forcément tous les individus. Et c'est cette question aujourd'hui qui clive dans la société.
Cette question nationale qui a explosé les gauches, Gilles Richard, qui perturbe aussi considérablement les clivages à droite.
Bien sûr, tout à fait. Et qui précisément crée le principal, aujourd'hui, le clivage que l'on a, si on raisonne en termes de droite-gauche à l'ancienne, du temps du XXe siècle, eh bien, les deux grandes forces politiques sont des forces de droite. Les néolibéraux contre les nationalistes. Et les gauches, on voit bien, sont marginalisées. Non. Mais peut-on dire aujourd'hui qu'on a encore un clivage droite-gauche ? Non, si les deux grandes forces sont issues des droites, c'est qu'un nouveau clivage est né. N'en déplaise aux gens de gauche. Il y a bien sûr aussi toute une série d'ouvrages qui paraissent, la gauche existe toujours. Oui, bien sûr, je suis absolument persuadé que la question sociale se pose toujours, elle est fondamentale pour les individus, mais dans la vie publique et dans la vie politique et dans la vie électorale, ce n'est plus elle qui fait le clivage essentiel.
Comment ça se pose à droite, cette question nationale ?
Comment ça se pose à droite ? C'est-à-dire, la question nationale, elle se pose autour de la question de l'Europe, principalement, hein, mais aussi du mondialisme ou de la mondialisation. Voilà. D'ailleurs, quand Bruno Maigret décrit ce nouveau clivage, c'est le premier à le qualifier hein, dans le congrès du Front National de 1997, congrès qui est tenu à Strasbourg, justement, juste à côté du Parlement européen, de façon volontaire. Hein, il explique que désormais, le combat est entre les mondialistes et les nationalistes. Marine Le Pen dit les patriotes. Hein. Et précisément, il y a ceux qui vont expliquer, ce sont les nationalistes, que tous les problèmes sociaux, économiques, culturels ne peuvent se régler que dans le cadre de la nation, une nation reconstituée, fermée, dominé par un État fort, avec des frontières contrôlées, une monnaie nationale, etc. etc. Donc, d'une certaine manière, par rapport aux européistes, une vision réactionnaire par rapport à l'évolution du monde, de la France dans le monde telle qu'elle se fait.
Il y a toujours des droites irréconciliables, c'est ça qu'on apprend finalement à la lecture de votre livre et puis en vous écoutant, Gilles Richard.
Elles sont irréconciliables, ces deux droites. C'est d'ailleurs pour ça que Nicolas Sarkozy échoue. C'est pour ça que François Fillon échoue. C'est pour ça que François-Xavier Bellamy échoue. Hein ? Elles sont irréconciliables. Les familles politiques, par définition, sont différentes les unes des autres. Les socialistes et les communistes étaient différents. Mais l'union pouvait se faire, pareil à droite, quand il fallait à un moment réagir à la question essentielle, la République sociale ou pas. Les droites pouvaient faire bloc, nationalistes et libéraux pouvaient s'entendre. Les gaullistes et les libéraux se sont longtemps entendus contre les communistes. Dans les gouvernements du général de Gaulle, il y a toujours eu des libéraux associés, les giscardiens. Voilà. Une fois qu'il n'y a plus l'ennemi commun, eh bien, on retrouve les différences fondamentales entre ces familles politiques.
La droite est orpheline de la gauche.
Voilà, exactement.
Un des candidats à cette élection des Républicains, Julien Aubert, qui se dit souverainiste, lui, théorise ce qu'il appelle la fin du parti unique. Lui, il dit effectivement, le MP, tel que ça existait, ça pourrait plus se faire. Il voudrait la coexistence, lui, de deux mouvements, une droite populaire et une droite plus modérée, dans une sorte de fédéralisme, comme ça, les Républicains. Ça vous paraît mieux collé, du coup, à ces nouvelles réalités
Oui, du terrain? Le cas de Julien Aubert est un petit peu particulier. Je ne sais pas combien il va faire de voix, hein, mais il est typiquement le représentant de cette fraction de l'UMP devenue LR qui penche du côté du Rassemblement National. Il ne faut pas oublier qu'en 2012, il est élu dans la 5e circonscription du Vaucluse. Il est en deuxième position face aux socialistes et la candidate du Front National se désiste pour faire battre la gauche. Hein. Et chose assez étonnante que personne encore, je crois, n'a relevé, il a épousé en 2017 la petite fille du Bachaga Saïd Boualam, qui est le fondateur du Front de l'Algérie française avec Jean-Marie Le Pen en 60, et qui a constitué un maquis de l'OAS en 1962 entre Alger et Oran. Et on a donc là un personnage qui représente véritablement cette tendance, même s'il ne le dit pas, hein, comme ça, il s'affiche pas comme ça, mais qui représente la tendance, je dirais, le péno compatible.
Voilà. On a trois candidats hein, sur cette élection. Oui. Donc Julien Aubert, dont on vient de parler, Christian Jacob, qui est le favori, oui. Très clairement, et Guillaume Larrivé. Comment vous voyez donc les deux autres candidats sur cette échelle des droites?
Christian Jacob, c'est l'homme qui fait consensus parce que, sans être désagréable, avec lui, c'est un homme qui ne va pas, qui se pose en homme de transition et qui va maintenir l'unité. Il préside le groupe depuis longtemps. Il a été chiracien, puis sarkozyste, puis filloniste, puis vauquieriste, puis désormais jacobiste, voilà, ou léonettiste, ou larchériste. J'ai plus de mal à situer Guillaume Larrivé, qui vient de l'écurie Hortefeu.
C'est la figure libérale peut-être du...
C'est la figure libérale. C'est peut-être aussi un candidat qui doit faire contrepoids à Julien Aubert. Éviter que Julien Aubert fasse trop de voix, mais ça, ce sont les résultats du vote des militants qui le dira.
Si on reprend 2017, l'élection présidentielle, ce que vous nous expliquez aussi, Gilles Richard, c'est que certes, c'est une élection à ne plus voir avec ces lunettes clivage gauche-droite, mais c'est encore une élection qui peut se voir avec la lunette de la lutte des classes, c'est-à-dire qu'il y a un vote de classe quand même en 2017. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre dans la vie politique française actuellement.
Bien sûr, je pense que la lutte des classes existe toujours.
Mais qu'elle
c'est
se traduit
un moteur
aussi,
fondamental. Mais cette lutte des classes ne se traduit pas forcément par un vote bolchevique, n'en déplaise aux héritiers de Lénine. Mais c'est clair que le vote a été de classe, car ce sont les classes moyennes qui ont voté Emmanuel Macron, et ce sont d'abord les classes populaires qui ont voté Marine Le Pen, ou qui se sont abstenues. Le phénomène se renforce d'ailleurs, hein, puisque aux dernières élections, donc les élections européennes, on voit bien que les quartiers, les villes les plus bourgeois et bourgeoises, entre guillemets, se sont massivement ralliés à Emmanuel Macron, ce qui pose un problème de fond à LR, qui démontre que le parti n'a plus d'avenir véritable. Et d'ailleurs, toute une partie de ces cadres, la famille juppéiste, est déjà partie. C'est ça qu'il faut bien se dire. LR est déjà vidée de toute une partie de ses forces vives.
Ce sont les juppéistes.
Les juppéistes,
ce sont
tous ceux qui font.
Édouard Philippe.
Voilà.
Et puis on peut citer François Bayrou peut-être. Il y a toute une force aussi au centre qui ajoute un peu à cette.
Car tout à l'heure vous avez dit le LR, c'est l'héritier du. Ce sont les héritiers du parti gaulliste. Ce sont des héritiers très lointains et il n'y a plus beaucoup de gaullisme dedans. Ne jamais oublier que l'UMP, c'est la fusion du RPR qui déjà n'était plus très gaulliste. Jacques Chirac est un pompidolien essentiellement. Hein. Et quand on vote. on fait des votes de tendance dans le RPR, enfin un vote de tendance si on peut dire, la tendance Pasqua ne représente qu'un tiers. Hein, la tendance Pasqua-Séguin dans les années 90 ne représente qu'un tiers. Et par contre, les libéraux, les giscardiens font tout à fait partie de tous ces gens, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Gaudin, sont des giscardiens depuis toujours.
Hein. Vous restez avec nous, Gilles Richard, on poursuit cette discussion sur l'état de la droite et sur le futur des droites en France. Vous êtes l'auteur de Histoire des droites en France de 1815 à nos jours chez Perrin. On vous retrouve après le journal de 8h.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Je venais de le dire. Quel avenir pour le parti Les Républicains et surtout quelle ligne politique à l'avenir aujourd'hui? Mardi 13 août, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures à la présidence de Les Républicains. Trois candidats vont se disputer les votes des militants. Christian Jacob, qui est le favori, Guillaume Larrivé, qui a la figure du libéral, et Julien Aubert, celle du souverainiste. Avec, au-delà de l'enjeu évidemment de cette élection et de savoir qui va incarner le parti et Les Républicains, avec aussi au-delà de l'enjeu des municipales, l'espoir de trouver un espace politique à droite, ce qui n'est pas évident. On en parlait avant le journal de 8h avec notre invité Gilles Richard, qui est historien et spécialiste des droites en France. Vous nous disiez, Gilles Richard, avant ce journal, que LR était voué, selon vous, à devenir un tout petit parti, un parti loin de ce qu'il a été quand il s'appelait encore l'UMP, asséché à gauche et à droite, finalement, par La République en Marche et par le Rassemblement National. C'est en fait aussi la victoire de la stratégie de Marine Le Pen qui, depuis son arrivée à la tête du Front National puis du Rassemblement National, n'a cessé finalement de taper sur le parti de droite hégémonique jusqu'alors.
Oui, Marine Le Pen a toujours fait le choix de ne pas faire d'alliance avec l'UMP devenu LR, ce qui ne semble pas être la stratégie proposée par sa nièce, Marion Maréchal. Hein. Comment dire, je pense que si Marine Le Pen, qui a une stratégie très solide, efficace sur, et qui tient la ligne sur la longue durée, réussit, c'est aussi parce que il y a une contradiction de fond qui a été introduite dans l'UMP par Nicolas Sarkozy lui-même. Hein, cette volonté d'associer des membres de deux familles politiques qui sont fort différents. Voilà. Et donc il y a une contradiction que Nicolas Sarkozy a pu tenir, il a pu être élu en 2007 face à Jean-Marie Le Pen qui a perdu beaucoup de voix parce qu'il a fait une mauvaise campagne. Une campagne curieuse, complètement décalée, hein, voilà. Mais qui n'est pas tenable sur le long terme. Donc Marine Le Pen profite de cette contradiction.
Pourquoi ce qui était possible en 2007 n'est plus possible aujourd'hui?
Mais parce qu'en 2007, Jean-Marie Le Pen fait une campagne qui surprend ses adhérents. Il fait le discours de Valmy où il appelle les immigrés de la deuxième génération à s'intégrer dans la France. Il va parler sur la dalle d'Argenteuil aux jeunes des banlieues. Marine Le Pen va sur Beurre FM. Ouais. Des choses qui ont complètement déstabilisé l'électorat du Front National, alors que Nicolas Sarkozy, lui, est sur la ligne identitaire et notamment le ministère de l'Identité nationale. D'où la récupération de toute une partie de l'électorat du Front National.
La stratégie des alliances, vous en parlez, Gilles Richard, et c'est vrai qu'elle est encore au cœur, finalement, des questions qui se posent, notamment encore au Rassemblement National. Marine Le Pen ne voulait pas d'alliance, elle a simplement, en 2017, fait alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres ambitions derrière. Aujourd'hui, on voit bien que dans le mouvement nationaliste, pour reprendre votre terme, il y a cette question, alliance ou pas alliance, c'est un des clivages peut-être entre Marine Le Pen et Marion Maréchal, ex-Le Pen, dont vous parliez à l'instant.
Oui, c'est un véritable problème, mais c'est un problème de second tour, on va dire. Ouais. Là, pour le moment, compte tenu de l'état des gauches et compte tenu de l'effondrement de la France insoumise, qui libère toute une partie de l'électorat populaire qui avait voté pour la France insoumise, la perspective pour le Rassemblement national est plutôt positive pour les élections à venir. Alors naturellement, c'est toujours très difficile de faire des prévisions parce qu'il peut se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui et les élections municipales, mais les élections municipales vont donner un bon aperçu de la situation, et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, on va voir si toute une série de villes basculent du côté du Rassemblement national, des villes comme Denain, par exemple, longtemps bastion communiste, et un des objectifs du Rassemblement national. On va voir comment le Rassemblement national mord sur cet électorat populaire aux prochaines municipales.
Oui, ça c'est une des questions. Et c'est encore une fois, je vous repose des questions sur l'enjeu des discussions entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. Est-ce qu'il faut faire des alliances ou pas? Marion Maréchal voulant, elle a été souvent aussi influencée par Patrick Buisson, par cette ligne-là, trouvons des alliances pour essayer de gagner en surface politique.
Oui, le Figaro d'hier nous révèle que
ça se passe pas
le torchon brûle entre Patrick Buisson et Marion Maréchal depuis quelque temps. Pour le moment, Marion Maréchal ne pèse pas véritablement sur la stratégie du Rassemblement national. Et je pense que du côté du Rassemblement national, on mise tout simplement sur le délitement de LR et la récupération de toute une série de maires ou de conseillers municipaux sans avoir besoin de passer des alliances pour le moment. La question des alliances, elle est surtout stratégique dans les seconds tours et stratégique dans la question du second tour des présidentielles.
Si on vous suit bien, Gilles Richard, c'est la renaissance ou la réorganisation de la gauche, des partis de gauche sur des mouvements qui existent encore mais qui n'ont pas forcément d'incarnation aujourd'hui. C'est cette réorganisation qui pourra contrer le Rassemblement national ou qui pourra mettre fin à cette dynamique-là qu'on voit depuis maintenant les années 80, effectivement.
Bien évidemment, quand on constate que le gros des électeurs du Rassemblement national se recrute dans les classes populaires, des classes populaires qui, jamais à 100%, mais très majoritairement ont longtemps voté pour les partis de gauche, on comprend bien qu'il y a un rapport direct entre l'effondrement des gauches et la montée du Rassemblement national. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les mêmes électeurs, ce sont leurs enfants en réalité. Comme je dis toujours, les électeurs qui votaient Maurice Thorez dans les années 50, ils ne peuvent pas voter pour Jean-Marie Le Pen dans les années 80 parce qu'ils n'ont plus le même âge. C'est leurs enfants. Il y a une rupture de transmission de tradition politique. Et ça, ce sont les partis politiques qui en sont responsables, au premier chef, PCF. Et Parti Socialiste.
Ça regroupe et ça recoupe les classes dont on parlait tout à l'heure, les classes sociales. C'est aussi un vote géographique, la distance au centre-ville. C'est aussi un vote qui a un rapport avec l'Europe et avec une vision aussi néolibérale. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre, Gilles Richard, dans les dynamiques actuelles.
Tout à fait. La stratégie de Marine Le Pen et de sa stratégie politique est de jouer sur trois thématiques essentielles. L'Union européenne responsable de tous les maux sociaux. L'anti-islamisme et l'antiterrorisme qui permet de faire de l'anti-islam et de l'anti-musulman. Et la récupération du thème de la laïcité, un thème républicain, mais sur un mode uniquement anti-musulman.
En reprenant l'actualité du jour, ces trois candidats pour la présidence de Les Républicains pour succéder à Laurent Wauquiez qui a démissionné après les mauvais résultats aux élections européennes. Il y a une constante dans leur proposition, c'est redonner la place aux militants, aux élus de terrain. Évidemment, ils se placent en contradiction avec la ligne wauquiésiste. C'est un signe, selon vous aussi, peut-être d'une perte de repères à droite, chez les Républicains, dans une famille politique où on a longtemps fait exister cette figure du chef et ce culte du chef. Là, aujourd'hui, on en arrive à dire que c'est effectivement le terrain qui va faire remonter les idées. Ça, c'est parfaitement nouveau, Gilles Richard. Et c'est le signe peut-être de quelque chose qui ne va pas très très bien.
Oui, c'est certainement le. D'abord, c'est le signe qu'il faut ménager les élus locaux.
Ça, c'est vrai.
En vue des municipales. C'est c'est la base de LR, c'est ce qui va permettre à LR de ne pas mourir. C'est comme les élus locaux du PCF, qui fait que le PCF existe toujours. Il a encore quelques milliers d'élus locaux et quelques centaines de maires. Donc, il va rester quelques centaines de maires et des milliers d'élus locaux LR. Donc, il faut les ménager. C'est aussi la traduction d'une perte de militants, parce que aux précédentes élections du président de LR, il fallait 8000 parrainages de militants. Là, il en faut seulement 1311. Et donc, si on a diminué le nombre de parrainages nécessaires, c'est la preuve qu'il y a beaucoup moins de militants qu'avant. Sans doute trois fois moins que du temps de l'apogée sarkozyste. Ouais, ouais. Donc le parti est en déclin, il a perdu ses militants. Quand on dit « est-ce qu'il va survivre ?», il est déjà en train de décliner largement, et il y a déjà toute une série d'élus et de militants qui soit sont rentrés chez eux, soit sont partis dans les deux autres forces politiques dominantes d'aujourd'hui.
Mais alors ça, c'est pas propre aux Républicains, Gilles Richard. On voit ce phénomène de la désaffection des partis à tous les niveaux de la classe politique.
Oui, c'est un phénomène assez difficile à analyser, parce que sur la longue durée, le nombre d'adhérents aux partis politiques a énormément fluctué. L'apogée, c'est à la fin des années 30. Un électeur sur cinq appartient à un parti politique, dont le plus grand parti que la France a jamais connu, le Parti Social Français de François de Laroque. Et à d'autres périodes, les partis ont très peu d'adhérents. Le nombre d'adhérents n'a pas forcément de rapport avec le nombre d'électeurs. Par exemple, en 2007, Olivier Besancenot fait 1,5 million de voix avec 3 000 adhérents. Et Nicolas Sarkozy, 10 millions avec 350 000 adhérents. Donc le rapport est très différent. Le parti gaulliste, dans les années 60, il a 30 ou 40 000 adhérents, pas plus. Et avec ça, il fait 48% des voix. Bon. Donc la désaffection par rapport au parti est difficile à mesurer. On peut pas dire... Il y a un brassage, il y a un changement de mode d'adhésion. C'est vrai que l'Internet fait qu'on s'engage autrement. Mais, par exemple, Place Publique, il y a 30 000 personnes qui cliquent pour Place Publique, mais il n'y en a que 200 qui cotisent. Voilà. La France Insoumise le constate aussi. Il y a 500 000 personnes qui cliquent, mais il y a quelques milliers de personnes qui militent véritablement sur le terrain. Et c'est un manque. Alors que les partis, et on a besoin de partis pour aller aux élections, pour déposer des listes, pour avoir des mandataires, pour distribuer les tracts. Les partis ne sont pas morts. Simplement, ils doivent effectivement réinventer des formes d'association des militants.
Alors, la question de la base est importante, évidemment. La question de l'incarnation aussi, cette élection...
Le leadership politique.
Voilà. Cette élection pour la tête de Les Républicains est placée peut-être en dehors de cette problématique liée au choix du candidat pour la présidentielle de 2022. Mais ils sont tous d'accord, tous les trois. Guillaume Larrivé, Christian Jacob et Julien Aubert, pour dire la primaire, c'est pas forcément bien. On est en train de revenir sur quelque chose qui a été un des phénomènes des dernières années. Oui. Primaire ouverte, il n'y aura pas cette fois-ci.
Oui, c'est certain que les primaires ont vécu. Il est peu probable qu'on revienne à ce mécanisme qui avait été introduit au départ par Lionel Jospin, puis Ségolène Royal en 2007. Mais en même temps, on a une élection. Il faut comprendre que l'élection qui va se faire du président de LR est une élection en demi-teinte, une demi-élection. On va pas élire un leader, surtout si on élit Christian Jacob, qui n'a pas un charisme politique gigantesque. C'est plutôt une élection d'attente. En fait, là, tout le monde à LR est en train de préparer le sauvetage des maires, des municipalités, au municipal de mars 2020. C'est ça la base. Et après, il y aura reconstruction ou pas. Voilà.
Merci Gilles Richard de nous avoir expliqué les enjeux immédiats et dans le temps long aussi de cette élection à la tête de Les Républicains. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'histoire des droites en France de 1815 à nos jours, paru chez Perrin. C'était en 2007. Il est 8h30.